C'est décourageant. Au contraire, si on vous disait, eh oui, c'est un tel, c'est la République, c'est le diable, vous ne pouvez rien faire, le Saint-Esprit n'est pas dans votre vie. Ben oui, mais comment combattre la République? Vous voulez combattre la République? Vous plaisantez? Vous voulez combattre le diable? C'est encore pire. Oh, alors quoi? Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus qu'à crever de désespoir. Et si on vous dit, oui, il y a un problème, c'est vous. Le seul problème est le diable, le monde, etc. Oui, bon, ce sont des adjuvants. C'est ça, des adjuvants au moins, des adjuvants à la concupiscence. Ah bon, alors c'est formidable. Alors, ça veut dire qu'en fait, le problème est très près de moi, et le problème est un des problèmes, et peut-être un des seuls problèmes auxquels je peux vraiment apporter solution, puisque c'est quelque chose qui me concerne moi. C'est même pas un problème de mon frère que j'aurais à régler chez mon frère pour mon frère avec son consentement, et s'il ne me donne pas son consentement, ça va être difficile de l'aider, etc. C'est moi le problème. C'est mon moi. C'est l'amour que j'ai pour moi-même. Vous voyez, mes très chers frères, c'est très important, il est très important, donc puisque nous avons reçu le Saint-Esprit, il est très important de travailler en coopération avec la grâce, en correspondance avec la grâce. La grâce nous est donnée pour l'accomplissement de notre nouvelle nature. Il y a bien sûr la doctrine de la souveraineté de la grâce, Dieu donne sa grâce à qui il veut, bien sûr, bien entendu, et nous ne la minimisons pas du tout. Il ne faut pas opposer la coopération à la grâce avec la doctrine de la souveraineté de la grâce. Au contraire, si la grâce nous a vraiment été donnée, alors nous y coopérons, puisqu'elle nous est vraiment donnée. Nous y coopérons, puisque c'est un effet de la grâce que de faire que la volonté de l'homme y coopère. Il nous faut donc, mes très chers frères, il nous faut donc coopérer, je viens de le dire, de telle sorte, et pour que cette coopération puisse se faire, il faut prendre conscience que la doctrine de la souveraineté de la grâce, qui consiste à dire que Dieu donne sa grâce gratuitement à qui il veut, cette doctrine doit nous être pour nous l'assurance que rien ne peut s'opposer à la réalisation du dessein salvateur de Dieu en nous. Or, ce dessein, eh bien, or, dans ce dessein, eh bien, deux choses sont à considérer. Un aspect subjectif, si vous me permettez d'être légèrement pédant, un aspect subjectif et un aspect objectif. Dieu veut nous sauver. Vous allez dire, mais je ne sais même pas si je suis un élu, etc. Êtes-vous baptisé? Oui. Alors c'est suffisant pour dire que Dieu veut vous sauver. Il y a deux choses à considérer. Une chose subjective, une chose objective. L'aspect subjectif, c'est que c'est notre salut. Nous avons été baptisés, et donc nous pouvons être sauvés. Sans le baptême, on ne peut pas être sauvé. Avec le baptême, il y a de grandes chances que nous puissions être sauvés, Deo gratias, si nous persévérons. Donc c'est l'aspect subjectif. Mais attention, seul l'aspect objectif est très important. Et l'aspect objectif, qu'est-ce que c'est dans ce dessein salvateur de Dieu sur nous? C'est la gloire que Dieu veut retirer d'une vie qui le glorifie par l'éclat de ses bonnes œuvres. Donc, vous voyez, bien souvent, nous ne mettons pas à profit la présence du Saint-Esprit en nous, parce que nous nous concentrons simplement sur le petit côté du dessein salvateur de Dieu, qui est l'intérêt que nous y trouvons. Mon salut. Alors, vous allez dire, j'ai un très grand intérêt à mon salut. Oui, mais si, excusez-moi, mais si vous aviez vraiment un très grand intérêt à votre salut, vous ne seriez pas là en train de vous lamenter de voir tellement peu de fruits dans votre vie, vous voyez? Donc, nous avons intérêt, c'est-à-dire que personne ne va dire, moi, je me moque d'être sauvé, etc. Bien sûr, personne ne le dit. Mais en même temps, faisons-nous tous les efforts pour être sauvés. Alors, vous allez dire, mais c'est difficile parce que des fois, je perds la motivation, parfois, je perds de vue, des fois, les choses mondaines ou les choses charnelles, etc., se mettent tellement devant mes yeux que je perds de vue la perspective du salut. Ce n'est pas étonnant, puisque d'une certaine manière, la perspective de notre salut personnel n'est que le plus petit côté du dessein salvateur de Dieu. Alors écoutez bien, parce que vous allez dire, qu'est-ce qu'il raconte? C'est très important de comprendre que nous sommes sauvés pour vivre à la gloire de Dieu. Et qu'il se trouve que vivant à la gloire de Dieu, nous serons sauvés, parce que c'est ainsi qu'on est sauvés. Dieu ne nous sauve pas, Dieu ne désire pas, Dieu ne nous régénère pas par le baptême pour que nous soyons sauvés. Dieu nous régénère par le baptême pour que nous vivions à sa gloire et nous savons que ceux qui vivent à la gloire de Dieu seront sauvés. Vous voyez, ce n'est pas la même chose. Vous allez dire, c'est les mêmes éléments, mais dans un autre ordre que celui dont j'ai l'habitude. Eh bien, changez cet ordre. Nous sommes baptisés, non pas pour être sauvés, mais je perds la motivation d'être sauvé, donc du coup, je fais n'importe quoi. Nous sommes baptisés pour ne plus nous appartenir à nous-mêmes. Nous sommes baptisés, Dieu nous a fait donner le baptême pour que nous vivions d'une vie nouvelle à la gloire de Dieu. Est-ce que vous pensez à Dieu? Est-ce que vous pensez à la gloire que Dieu doit retirer d'une vie qui est vécue à sa gloire? Alors vous allez dire, ce n'est pas moi qui vais vraiment augmenter quoi que ce soit de la gloire de Dieu. Mais le plus grand dessein n'augmente pas la gloire de Dieu. C'est un devoir que Dieu nous a fait. allez dire, mais drôle de devoir si ça ne sert à rien. Vous êtes très raisonneur, mais enfin, en même temps, vous avez raison, ce sont des questions qui se posent. Si Dieu veut que nous vivions pour sa gloire, quoique nous n'augmentions pas sa gloire par les bonnes œuvres que nous faisons, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que nous ordonnant de vivre pour sa gloire, qui est un but objectif que nous pouvons poursuivre et qui est motivant, Dieu nous fait participer à sa gloire éternelle. Il nous fait participer à sa nature divine. Dieu ne nous donne pas la vie nouvelle pour nous-mêmes, mais pour lui. Voilà la grande clé de la fructification des sacrements qui sont en lien avec le Saint-Esprit en particulier, et tous les autres aussi bien entendu, mais puisque c'est la Pentecôte, on parle du sacrement de confirmation et aussi de celui du baptême. Vous voyez, Dieu ne nous donne pas la vie nouvelle pour nous-mêmes, mais pour lui, pour que nous vivions à sa gloire, sachant que celui qui vit à la gloire de Dieu est sauvé. Et d'un autre côté, comment s'imaginer être sauvé si on ne vit pas à la gloire de Dieu? Alors évidemment, vous dites, ça fait trembler. Mais je suis le premier à trembler, mes très chers frères. Et pourtant, c'est la doctrine. Je suis obligé de vous la dire telle qu'elle est. Les maximes de l'Évangile ne sont pas un idéal de vie, mes très chers frères. Dieu ne nous fait pas donner le baptême par l'Église. Et ensuite, il nous dit, voyez, les béatitudes, etc. Bon, ben voilà, essayez de viser, faites ce que vous pouvez, etc. Non, il dit, je vous ai rendu vivant, vous qui étiez morts, pour que vous viviez à ma gloire. Sachant qu'il y aura une belle récompense pour vous si vous vivez ma gloire. Mais je veux que vous viviez à ma gloire. Il y a les maximes de l'Évangile, mes très chers frères, ne sont pas un idéal de vie, mais le moyen d'exprimer notre gratitude envers Dieu qui nous a élus pour sa propre gloire. Si quelqu'un m'aime, dit notre Seigneur, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. C'est Dieu qui nous a aimés les premiers, c'est vrai. Mais nous sommes faits pour aimer Dieu. L'amour de Dieu, mes très chers frères, est moins un sentiment subjectif variable que la gratitude qui vient de la connaissance de ce que Dieu a fait, de ce que nous étions et de ce que nous sommes. Qu'est-ce que nous étions? Nous l'avons dit, nous étions morts, nous étions comme des cadavres, même encore moins que des cadavres, nous étions des squelettes disloqués. La gratitude vient de la connaissance de ce que nous étions, c'est-à-dire perdus, et de ce que nous sommes, c'est-à-dire rachetés, retrouvés par Dieu. Or, mes très chers frères, un auteur nous dit « Ce qui manque le plus à l'homme, c'est moins la connaissance que l'amour du bien. Le pécheur, bien souvent, nous dit un commentateur, bien souvent, le pécheur ne veut pas comprendre pour ne pas être obligé de bien faire. On voudrait que le Saint-Esprit fasse lui-même les efforts que Dieu attend de nous pour manifester la réalité de notre amour pour lui. Nous avons été rachetés par le sang précieux du Christ. » Cela s'est manifesté par le baptême, pas racheté en imagination, on est racheté par, et ça se manifeste par le baptême qui est comme le sang du Christ qui nous est appliqué, qui est le sang du Christ qui nous est appliqué, la mort et la résurrection du Christ qui nous est appliqué. C'est déjà une source, quand on sait qu'on ne peut pas être baptisé sans le baptême, on ne peut pas être sauvé sans le baptême, comme vous le savez, selon la doctrine orthodoxe, c'est-à-dire que le simple fait, au lieu de dire, regardez alors les gens qui ne sont pas baptisés, etc., et puis les gens qui étaient, non, concentrez-vous sur vous. Vous êtes baptisé? Oui. Alors, vous êtes vraiment certain d'être baptisé? Oui. Ah, vraiment certain. Alors là, vous n'avez plus aucune raison de ne pas être dans la gratitude et dans la reconnaissance. Pourquoi? Parce que c'est un bien extrêmement rare. Aujourd'hui, à cause de cette crise sanitaire, etc., aujourd'hui, on voit les prêtres, enfin certains prêtres de certaines religions, j'ose imaginer qu'ils ne sont pas catholiques, mais enfin, qui baptisent les enfants avec des petits pistolets à eau, etc., pour garder les distances. Vraiment, à strictement parler, s'ils disent en même temps les paroles et que bon, mais enfin, vous voyez, rendez grâce pour votre baptême, qui, je le sais, mes très chers frères, est un baptême valide que vous avez reçu vraiment de l'Église. Rendez grâce d'avoir été baptisé. Prions pour ceux qui devront probablement être baptisés sous condition quand ils se convertiront, parce que vraiment, baptiser avec un pistolet à eau, c'est quand même un peu curieux comme méthode liturgique. Enfin bon, ça, on réglera ça dans quelques années, avec l'aide de Dieu. Il se trouve que vous êtes baptisé, oui, c'est une certitude que vous avez, oui, c'est une certitude absolue que vous avez, oui, alors vous avez la certitude que vous pouvez et que vous devez vivre dans la reconnaissance. Le baptême est une chose tellement merveilleuse, c'est une chose tellement grande, c'est une chose qui a fait de nous des vivants alors que nous étions des cadavres pourris autrefois et sans vie. Et le baptême n'est pas quelque chose qui a été une amélioration qualitative, ça nous a fait passer de l'état de mort à l'état de vie, de l'état d'enfant du diable à l'état d'enfant de Dieu. Donc, si nous sommes baptisés, rien que... Si nous ne cherchions qu'une seule raison d'être reconnaissants envers Dieu, nous en avons des milliers, mais une seule raison, le baptême, qui est la raison pour toutes les autres, la cause de toutes les autres. Alors, mes frères et chers frères, il faut vivre dans l'actualisation et le développement de ce baptême, de toute la puissance que nous avons reçue dans ce baptême. On voudrait que le Saint-Esprit lui-même fasse les efforts que Dieu attend de nous pour manifester la réalité de notre amour pour lui. On voudrait que la vie que Dieu nous a rendue fasse elle-même les actes bons que Dieu attend de nous. Mais Dieu nous demande de les faire à nous parce que nous sommes vivants. Arrêtons de penser que le Saint-Esprit est quelque chose d'extérieur à nous-mêmes. Il est, par un certain côté, il est extérieur à nous-mêmes, bien sûr. Mais d'un autre côté, il est la vie de Dieu, il est l'amour de Dieu infusé dans nos cœurs, dit Saint-Paul. Donc, arrêtons d'imaginer que quelqu'un d'autre doit faire les efforts que nous faisons. Nous pouvons faire ces efforts. Alors, ces efforts, c'est difficile, c'est fastidieux, etc. Oui, mais autrefois, c'était même pas qu'ils étaient difficiles et fastidieux, c'est qu'ils étaient impossibles. Nous ne pouvions pas plaire à Dieu avant notre baptême. Depuis que nous sommes baptisés, nous pouvons plaire à Dieu. Vous allez dire, mais c'est très difficile. Mais avant, c'était impossible. Vous allez dire, ça m'arrange pas beaucoup, parce que difficile ou impossible. Mais très cher frère, arrêtez un petit peu d'être ingrat. Aujourd'hui, c'est possible. C'est difficile. Évidemment, tout effort est difficile. Regardez, vous montez 3 marches, c'est difficile, vous êtes un peu essoufflé. Tout effort est difficile. Alors, a fortiori, les efforts spirituels. Il ne faut pas s'étonner que ça soit difficile. De faire n'importe quoi est difficile. Il ne faut pas s'imaginer que le Saint-Esprit va faire les choses à notre place, parce que le Saint-Esprit est celui qui nous donne la force de faire les choses qu'autrefois nous ne pouvions pas faire. C'est le mystère de l'inhabitation de la Très Sainte Trinité dans nos âmes. Un auteur nous dit, et alors là c'est très important, un auteur nous dit, ce n'est pas l'amour passager ni l'observation de la parole de Dieu en quelques points particuliers qui mérite que Dieu établisse sa demeure en nous comme dans son temple. C'est une volonté ferme et constante de pratiquer ses maximes et ses commandements. L'âme, nous dit cet auteur, qui aspire à être le temple éternel de la Très Sainte Trinité, doit avoir une disposition comme, pour ainsi dire, éternelle de faire sa volonté. Vous allez dire, oui, mais je ne trouve absolument pas en moi cette volonté, cette fermeté du propos de ne jamais me départir des maximes de l'Évangile et de toujours les mettre en pratique. Ça montre une seule chose, mes très chers frères. Alors vous allez dire, oui, ben ça montre que je ne reçois pas beaucoup de grâce de Dieu. Non, c'est pas ça, mes très chers frères. Ça montre que vous vous aimez tellement que la grâce de Dieu est comme phagocytée en vous. Alors vous allez dire, oui, mais attendez, soyez respectueux envers la grâce. La grâce est la grâce d'un Dieu souverain, etc. Oui, mais le Dieu souverain nous a fait enseigner par son Fils que le bon grain, qui peut représenter la grâce de Dieu ici, ou la parole de Dieu, peut être étouffé par les racines, par les épines. Cette grâce peut être grillée au soleil par un manque de charité, et elle peut être aussi dévorée par les oiseaux. Que Dieu nous garde. Donc voyez, mes très chers frères, ce n'est pas que la grâce nous fait défaut, et c'est pour cela que nous ne trouvons pas en nous-mêmes cette fermeté du propos, c'est que nous nous aimons tellement nous-mêmes que d'une certaine manière, nous phagocytons la grâce. Que ça veut dire phagocyter? Ça veut dire vampiriser en quelque sorte la grâce, si cette expression veut dire quelque chose. C'est-à-dire que l'amour du monde, l'amour de nous-mêmes en nous, est comme ces épines qui petit à petit dévorent, étouffent, tordent le cou à la graine, au bon grain qui est en train de pousser, qui a été semé en nous par le baptême. Vous allez dire, mais donc du coup je me retrouve tout seul. Non, vous ne vous retrouverez pas tout seul, mes très chers frères, parce que vous êtes vivants. Je ne parle pas à des morts, je parle à des vivants, mine de rien. Je parle à des vivants de morts que vous étiez, que nous étions. Vous allez dire, ça me paraît au-delà de mes forces. C'est même impossible, mes très chers frères. C'est pour ça qu'il faut le demander à Dieu. Vous allez dire, mais si je le demande à Dieu, pourtant, vous demandez mal, afin de, dit Saint-Jacques, ce n'est pas moi qui le dis, afin de satisfaire vos concupiscences. Je demande à Dieu des vertus, je demande à Dieu, donnez-moi votre amour. Oui, mais si je ne fais pas je demande toujours l'exemple que nous prenons ici, c'est la patience. Je demande à Dieu la patience, et Dieu me confronte à une chose qui excite mon impatience. Oui, mais comment voulez-vous que Dieu vous donne la patience s'il ne vous donne pas les moyens de l'acquérir? Vous voulez dire, il pourrait infuser la patience en mon cœur. Il a déjà la patience, c'est pas grand-chose, et le Saint-Esprit, c'est beaucoup plus. Eh bien, il a infusé le Saint-Esprit dans votre cœur. Est-ce que c'est pas beaucoup mieux? Alors que reste-t-il à dire? Il reste à dire que, mes très chers frères, nous faisions le constat lamentable du peu de fruits dans notre vie, du peu d'effet que le sacrement de confirmation a dans notre vie. Alors, c'est un constat lamentable. Et je disais au début de ce sermon, vous vous souvenez, que nous avions raison de faire ce constat, mais raison provisoirement. Nous avions raison provisoirement parce que maintenant, que nous sommes un peu plus éclairés, j'espère, nous disons, mais finalement, c'est pas tellement que les sacrements, etc., ne sont pas où le Saint-Esprit n'est pas tellement efficace, c'est que je m'aime tellement, je suis tellement, tellement énorme en moi-même, que le Saint-Esprit est en quelque sorte comme rejeté sur les côtés. Je suis tellement ingrat que le Saint-Esprit est comme phagocyté par l'amour de moi-même. Le don du Saint-Esprit rend possible cette ferme volonté, mes très chers frères. Nous avons reçu, et vous avez reçu, le Saint-Esprit. Ne dites pas, il me manque quelque chose. Vous avez déjà tout. Vous voyez, comme ça nous arrangerait de dire, ah ben, il manque un sacrement très spécial qui ne peut être donné que par un archevêque, etc. Attends, on n'a plus que des évêques, etc. Ah, c'est dommage. Ah, ça vous arrangerait bien, ça nous arrangerait bien, hein, ça nous arrangerait bien que notre vie chrétienne, que la fruition de la vie chrétienne, que le développement complet de l'amour du Saint-Esprit en nous soit dépendant d'un sacrement très rare qu'on ne peut plus obtenir aujourd'hui. C'est pas ça, mes très chers frères. Si c'était ça, nous serions les plus malheureux des hommes, nous aurions une religion imparfaite, amputée d'un essentiel. Nous avons tout pleinement en notre Seigneur Jésus-Christ. Le seul problème, c'est que nous n'en voulons pas. Le don du Saint-Esprit rend possible cette ferme volonté. C'est la promesse, Dieu nous a fait cette promesse que ni le diable, ni le monde, ni la chair ne parviendraient à entraver l'effet du Saint-Esprit en nous. Vous avez dit, et pourtant, on dirait que cette promesse ne se réalise pas puisque je vois tellement de concupiscence en moi. Eh bien, justement, il faut invoquer le Saint-Esprit comme l'âme de notre volonté. C'est à la Pentecôte, nous dit un auteur, que la violence prescrite par notre Seigneur Jésus-Christ dans l'Évangile est devenue possible. Le royaume des cieux est pris d'assaut, ce sont les violents qui s'en emparent. Grâce au Saint-Esprit, nous pouvons nous faire cette violence. Vous allez dire, je suis trop faible. Il faut faire comme les apôtres, mes très chers frères, prier et supplier Dieu de nous donner le Saint-Esprit. Il faut invoquer beaucoup le Saint-Esprit, spécialement durant cette octave, mes très chers frères. Je vous supplie, ne perdez pas le temps de cette octave. Vous aurez bien sûr toute votre vie, vous aurez toute l'année, toute votre vie pour prier le Saint-Esprit. Mais enfin, qui sait si vous vivrez au-delà de cette octave? Alors que Dieu vous garde, bien sûr. Mais que Dieu nous garde tous. Mais puisque c'est le temps... C'est l'octave du Saint-Esprit. C'est l'octave nous fêtons particulièrement le Saint-Esprit durant ce temps de l'année liturgique. C'est l'extrême fin du temps pascal. Samedi après Vêpres, eh bien, nous serons déjà dans le temps après la Pentecôte. Profitons de cette dernière octave pour supplier le Saint-Esprit de venir en nous, mes très chers frères. Appuyons-nous sur les promesses de Dieu. Que le monde ne prévaudra pas, que le diable, le monde ne prévaudra pas contre ceux qui ont reçu toutes les grâces de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit, et soyons reconnaissants. Soyons reconnaissants, mes très chers frères, pour le baptême qui est un fait que nous avons reçu, soyons reconnaissants pour cette infusion du Saint-Esprit qui nous a été faite, et soyons encore plus récents si vous êtes encore plus reconnaissants si vous êtes confirmés. Soyons reconnaissants, ne soyons pas ingrats, et invoquons le Saint-Esprit, et il est impossible que nous n'ayons pas une réponse. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.
Merci.